Bien, mesdames et messieurs, bonjour. On est heureux de vous retrouver ici. Alors, j'utilise un micro parce que c'est enregistré. Je dis d'ailleurs aux musiciens que c'est enregistré, donc ça sera pour la postérité. On gardera pour toujours vos impressions d'aujourd'hui et ce que vous allez raconter. Alors, ceux qui nous ont suivis pendant un an savent que nous avons fait l'histoire de l'orchestre. Depuis 1856, l'orchestre a été créé. Et puis, on est arrivé à l'époque moderne. On a fait appel aux musiciens qui étaient à l'orchestre, mais qui n'y sont plus parce qu'ils sont partis en retraite. Ainsi, Lynn Anderson, ainsi Jean-Marc Jourdain, qui sont venus et qui nous ont rencontré des choses tout à fait passionnantes. Et à cette occasion, on a découvert que les musiciens que nous voyons, que nous avons vus pendant des années et des années, sont tous évidemment des excellents musiciens puisqu'ils font partie de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, mais sont tous des personnalités intéressantes. Et il nous semblait, avec Smadar, intéressant d'imaginer rencontrer les musiciens actuels. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que pensent-ils? Comment ils exercent leur métier? C'est ce que nous allons faire. Alors, il y en a quatre aujourd'hui, mais il y en aura quatre la prochaine fois si on continue, puis quatre la fois suivante. Alors, on applaudit David Lefebvre, Anne Maug, Thierry Amadi et Julien Bourgeois. Bon, alors on va commencer par le violon solo super soliste, bien entendu, qui va prendre son micro, pas son violon, mais son micro. La première question, David, comment un jour vous avez eu l'idée de... Oui ? Attendez.
Oui, c'est moi. Allô ?
Non, ça...
Oui, SOS. Mais je pense que...
Non, c'est pour l'enregistrement. Voilà. Est-ce que
c'est...
Oui, là, je crois que ça marche.
Voilà,
ouais. Alors, la première question que je vais vous poser, Yann Larsen, que je vais poser à tout le monde. Comment, un jour, vous avez eu l'idée de postuler pour l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo?
Ah. Alors, ça ne
marche
déjà plus.
Si, ça marche, là, ça marche.
Ça marche?
Non, oui.
Ah.
On a
besoin pour l'enregistrement.
Allô, oui. Bon. Ah oui, mais ça m'intimide, parler avec un micro.
D'accord.
Bonjour à tous déjà, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ça fait plaisir de vous voir dans un contexte différent que cette salle de concert noire au fauteuil bleu de velours. Donc je suis heureux de vous retrouver ici, surtout d'avoir mes très chers amis et collègues à côté de moi. Voilà. Et j'ai un problème, André.
Oui.
J'ai une personne que... Est-ce que je peux baisser un peu l'écran? C'est Joséphine que je ne vois pas. Je vois le bout de sa casquette. Ben voilà, c'est plus agréable quand même.
Bon,
voilà,
alors,
parce que je voyais un bout de...
Si on comprend bien, il est venu ce matin pour Joséphine.
Voilà.
Exactement.
Alors, David.
Voilà. Donc, alors, comment je suis arrivé à l'Orchestre de Monte Carlo? Et c'est une histoire que...
Qui nous intéresse.
Oui, qui vous intéresse et que je trouve, en tout cas, dans l'histoire de ma propre vie, que je trouve très belle. En fait, tout s'est passé de cette manière-là. Et j'ai même des gens ici présents, Lynn Anderson et Jean-Marc Jourdain, qui pourront, peut-être monsieur aussi, monsieur Fritz, comme j'aime l'appeler, confirmer. En fait, j'étais en poste, super soliste, à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, où je suis rentré à l'âge de 23 ans.
Venant du Canada.
Venant presque... j'étais en études au CNSM de Paris.
D'accord.
Et je pourrais... il faut diviser l'heure de conférence en quatre, donc oui. Je vais... couper, je vais faire certains raccourcis que si je vous, n'hésitez pas à venir me demander si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai fait 8 années de violon solo à l'Orchestre Philharmonique, du Capitole de Toulouse avec Michel Plasson. Michel Plasson qui m'avait invité suite à un concours international que j'avais remporté, le concours international de violon de Douai, dans le nord de la France. Ville d'ailleurs où est né, pour les plus férus de
l'histoire,
Henri Dutilleux, exactement. Et pour la petite histoire que moi j'aime bien me raconter à moi-même, vous voyez, il faut avoir du plaisir avec soi-même déjà, c'était l'édition de ce concours où étaient présents au même concours des gens que vous connaissez, je pense, déjà très bien. Il y avait David Grimal, excellent violoniste, qui a créé aussi son orchestre. Il y avait Renaud Capuçon, tout à fait. Oui, puis Thierry, moi c'est une longue.
Alors c'est quel concours? C'était
le concours international de violon
de Douai.
De Douai,
voilà. D'accord.
Et l'histoire, c'est là que je vais raccourcir, mais c'est assez intéressant en fait. Oui. Il se trouve que j'ai reçu le premier Grand Prix de ce concours.
Alors, devant Renaud Capuçon, devant David Grimal.
Oui, et l'histoire, c'est que
Ça s'applaudit, mesdames et messieurs.
Oui, ouais, s'il vous plaît, Anne. Sauf Anne. Anne n'applaudit pas parce qu'elle dit je connais. Elle écoute. Non. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que Monsieur Capuçon était déjà dans un système bien rodé de médiatique avec les magazines Diapason, Yves Petit Devoise, tout ça. Et en fait, il était prévu qu'il ait le premier prix. Et en fait, quand il a...
Vous voyez qu'on en apprend des choses. C'est intéressant tout ça.
J'ai eu le premier Grand Prix. David Grimal a eu le deuxième prix. Et c'est à ce moment-là que Renaud Capuçon a quitté la scène lors de la remise des prix parce qu'il n'avait pas supporté de ne pas avoir le premier prix. J'aime beaucoup Renaud, c'est un ami, on se voit,
bien sûr,
et il serait là. Et bien sûr, mais voilà. Non, je pense pas. Il a fait une carrière extraordinaire. Il a le monde à ses pieds. Et voilà. Donc, suite à ce concours, j'ai eu le premier Grand Prix, à part un certain montant d'argent conséquent, il y avait une tournée de concerts en soliste avec la Symphonie Espagnole et le chef qui a dirigé cette tournée avec l'Orchestre de Douai, qui est un orchestre honorable, sans plus, mais quand même très bien, c'était le chef assistant de Michel Plasson. Stéphane Cardon, qui aujourd'hui nous a quitté. À la fin de la tournée, Stéphane, il vient vers moi, c'était un monsieur pétulant et plein d'énergie, il dit « David, il faut que je te demande un truc. » J'avais 22 ans. Pourquoi pas, t'aimerais bien être violon solo à Toulouse, au Capitole de Toulouse? Alors moi, mes amis peuvent confirmer, 22 ans, violon solo, à l'époque, ça n'évoquait absolument rien. Je connaissais vaguement. Ce que je savais, par contre, mesdames, messieurs, et ça, c'est passionnant, c'est qu'il me demandait, car le violon solo qu'avait Michel Plasson, lorsqu'il m'a posé cette question, c'était mon tout premier professeur de violon à Montréal, au Québec, Calvin Sib, qui m'a enseigné de 4 ans et demi à 5 ans et demi, 6 ans. Et pourquoi si peu? Car Michel Plasson avait pris Calvin Sib du Conservatoire de Montréal pour l'amener avec lui dans ses bagages pour être le violon super soliste de l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Calvin Sib a quitté son poste, je ne sais pas, retraite, âge, je ne sais plus. Et c'est à ce moment-là que Stéphane Cardon m'a demandé. Bref, je suis allé faire une audition pour Michel Plasson, personnel, devant ces hauts fonctionnaires, le hautbois solo, le cor solo, le violon solo, enfin tout le monde était là. Et suite à cette audition que j'ai passée, il m'a dit comme ça, Michel Plasson était une personnalité très forte et très... Il dit, moi je vous veux. Ah, j'ai 22 ans, oui, c'est gentil, venez faire un concert avec moi et on verra. Bref, j'ai fait une année une année complète de tous les concerts de l'orchestre du Capitole de Toulouse à 23 ans. Et je peux vous dire, mesdames, messieurs, à cet âge-là, par contre, j'ai vite compris ce que ça voulait dire d'être violon solo. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour où j'ai accepté de faire un premier concert, je travaillais nuit et jour pour, lorsque je me suis présenté devant l'orchestre, devant mes futurs, je ne le savais pas encore, mes futurs collègues, pour faire comme si j'avais l'expérience d'une personne qui faisait de l'orchestre depuis 15, 20, 30 ans. C'est-à-dire, j'écoutais, j'avais mes procédés à l'époque, je me souviens, on avait fait l'intégrale des symphonies de Beethoven. Mmh. Bon, et je les avais appris par cœur, travaillé nuit et jour. Et vraiment, c'est pas une blague. Aussi la nuit,
Et c'est important d'insister là-dessus, parce que le violon solo, c'est un chef d'orchestre bis. En
fait. Exactement.
Voilà. Donc, il doit imprimer les coups d'archet, il doit entraîner l'orchestre. Exactement. Donc voilà pourquoi vous devez connaître tout cela.
Voilà, et donc en fait, merci André, oui c'est ça, donc en fait du jour au lendemain je me suis retrouvé, moi je jouais mes petits concertos dans les concours un peu ici et là, et je me suis retrouvé à devoir mettre des coups d'archet. Alors mesdames, messieurs, vous savez ce que c'est qu'un coup d'archet, ou à part Lane Anderson, il sait ce que c'est qu'un coup d'archet.
Même oh ben oui, Jean-Marc, on espère. Hein.
En fait un coup d'archet, un instrumentiste à cordes, Thierry aussi, on a dans la main celle-là, de main droite on a un archet, et en fait on peut faire ou ça.
Tirer, pousser.
Voilà. Bravo André. Une mention spéciale pour André, les tirer ou pousser. Mais l'art de tirer ou de pousser un archer, je dis bien un archer, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, qui s'apprend avec l'expérience. Et ce qui peut bien sonner, un tirer qui peut bien sonner pour un musicien individuel, peut-être mal sonner pour une collectivité de 14 à 16 violonistes. Donc il faut comprendre, c'est presque une philosophie, le coup d'archet. On pourrait
et c'est le rôle du violon solo. Alors voilà. je vais un petit peu accélérer les choses, parce qu'au bout d'un quart d'heure, on en est à peine à Toulouse, on n'est pas du tout arrivé à Monaco encore.
Et donc j'ai fait mon année de stage, l'orchestre a voté oui ou non pour que je reste après cette année de stage intensif. Le vote a été concluant, puisqu'il s'agissait de 97% de l'orchestre était pour. Les
bravo.
3%, on a passé. Oui, ce n'est pas nécessairement pour qu'on. Voilà, mais c'est pour que vous sachiez.
Si, mais ça s'applaudit, ça aussi.
Et donc. Merci. C'est bon, Anne a démarré. Et donc, voilà, j'ai passé 8 très très belles années là-bas, jusqu'au jour où je reçois un coup de téléphone d'un monsieur très digne, avec une voix posée. Et ça, j'adore cette anecdote. Un jour, il faut que je la mette par écrit.
Oui.
Bonjour, monsieur Lefebvre. René Croisy à l'appareil. Alors,
René
Croisy. René Croisy, qui est un très grand ami à moi. Je le connaissais d'avant, j'habitais à Nice. Mon épouse, à l'époque, habitait Nice. Je connaissais René Croisy de nom, du moins, le grand manager de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et il m'appelle et il me dit, Monsieur Lefebvre, seriez-vous intéressé à venir être violon solo à l'Orchestre de Monte-Carlo? Ce à quoi j'étais persuadé, mesdames et messieurs, je vous le jure, sur la tête de ma fille, qui est extrêmement précieuse. Je dis, ça c'est une belle blague. Alors j'essayais, pendant qu'il me parlait, je dis, qui a pu me faire cette blague-là? Parce que René Croisy m'appelait, c'est impossible. Et en fait, je le gentiment, élégamment, je le charrie un petit peu, je dis, oui, c'est ça, oui, violon solo, bien sûr, oui. Non, mais c'est monsieur Janowski, maître Janowski qui vous désire. Oui, bien sûr, mais Janowski, parce que je le connaissais également très bien, Marek Janowski. Bref, je finis par comprendre que c'est vraiment René Croisy et que c'est vraiment moi qui l'appelais pour me demander cette chose-là. Bon. Pourquoi monsieur Janowski m'avait demandé, c'est tout simple, c'est parce que avant.
Ce sont les photos de Marie Janowski.
Ah ben voilà. Oui, il avait. Et c'est pour ça, peut-être ceux qui étaient au concert que nous avons fait dernièrement, vous avez peut-être vu de l'émoi et de l'émotion chez certains d'entre nous, peut-être, parce que comme toute personne sur Terre, il y a des gens qui aiment quelqu'un, il y a des gens qui l'aiment un peu moins. Mais c'est une personne, en tous les cas, je pense, pour un bon nombre de musiciens, a été extrêmement précieuse au sein de cet orchestre. Et donc, je fais une rencontre avec Marek Janowski, où il m'explique qu'il avait assisté à beaucoup de mes concerts de musique de chambre, qu'il était présent, qu'il avait entendu mes disques que j'avais fait à l'époque, et qu'il aimerait bien que j'essaye de venir faire un concert avec lui. Voilà. Et c'est une histoire qui ressemble curieusement à celle de Michel Plasson une dizaine d'années plus tôt. Je dis oui parce que j'avais des attaches familiales dans la région et que j'ai trouvé intéressant et stimulant de venir tenter ma chance à Monte Carlo. Voilà. Donc je suis arrivé. J'ai fait non pas un après-midi de concours ou une journée entière de concours de recrutement.
Voilà, alors j'imagine qu'il y avait plein de candidats quand même pour être
en solo. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout, André. Et
C'est ce qu'on veut savoir.
Certains d'entre vous le savent, d'autres pas. Mais... En fait, non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait d'abord un premier concert avec l'orchestre. Et puis, suite à ce concert-là... Exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas, puisque moi j'étais de l'autre côté de la barrière. Je pense que peut-être Marek Janowski a réuni certaines, les hautbois solo, les cors solo, etc., pour parler de moi. Et en fait, il a été décidé que je passe, non pas, je vous répète, une journée de concours intense, certes, mais une année de stage complète au sein de l'orchestre de Monte Carlo. Ce qui, je me permets de vous le dire, est d'une difficulté énorme, bien que j'avais déjà à l'époque...
Parce que vous étiez en examen à chaque concert.
En examen perpétuel. Perpétuel. Comment je m'exprime, comment je m'adresse à mes collègues, comment je joue les solos, comment je suis dans le foyer en prenant le café.
Et au bout d'un an, vous avez été engagé. Je vais être obligé de vous couper la parole.
Ça se termine ici, mesdames, messieurs, pardonnez-moi. Et je laisse la parole à mes amis. En fait, Janowski avait prévu la chose, c'est qu'au bout d'un an, il voulait la dernière étape, et ça, il faut le mentionner, c'était que je joue le double de Brahms avec Gary Hoffman. Voilà, même pas sous sa direction. Lui faisait un opéra à Paris. Il a pris un avion spécialement pour venir écouter ce concert. Je me souviendrai, un dimanche à 18h. Il est venu écouter. Et puis, après ça, l'orchestre a voté après cette
année. J'imagine que lors de ce concert, vous aviez un petit peu le trac quand même.
Écoutez, je connaissais Gary Hoffman et c'est un être tellement lumineux et charismatique. La musique nous apporte. Et le destin fait que, en passant le micro à ma très chère amie à côté, 26 années sont passées, mesdames, messieurs, puisque ça, c'était en septembre 1999, au siècle dernier.
Au siècle dernier, absolument. Merci David, écoutez, c'était passionnant.
Merci.
Alors moi, j'allais dire, j'avais encore 100 questions à poser, mais il faudrait que vous reveniez, parce que le témoignage de ces 26 années, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais là, vraiment, le temps avance. Anne Moog, la flûtiste soliste qu'on apprécie concert après concert, qui nous ravit par ses solos. Vous êtes entrée quand, Anne, à l'orchestre ?
Alors moi, je suis rentrée en 1990. Oui, ça fait peur.
Vous êtes la doyenne des quatre aujourd'hui. Oui. Oui, absolument. Alors, la même question que pour David. À quel moment vous avez eu l'idée de postuler pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et qu'est-ce que vous faisiez avant ?
Alors, pour être franche, moi je ne viens pas d'une famille de musiciens.
Oui.
Et la grande question que je me suis toujours posée, c'est comment j'avais bien pu arriver à la flûte ?
Ah !
Voilà, alors j'ai posé la question à mes parents.
C'est une excellente question, ça. C'est ça. Et alors la réponse, c'est...
C'est ça. C'est que on m'a raconté que j'utilisais n'importe quoi pour faire de la musique quand j'étais bébé. Enfant, etc. Et que je m'étais longtemps promenée avec une petite trompette en plastique bleu qui me permettait de faire 3 notes et qu'un jour j'avais déclaré que c'est la flûte que
vous vouliez.
Je voulais
travailler.
Une flûte en fait. Alors moi je ne savais pas qu'il y avait des conservatoires, qu'il y avait, etc. Hein, je ne savais pas du tout. J'étais encore moins allée au concert où je ne savais pas qu'il existait des orchestres.
Vous étiez dans quelle région de France ?
Alors à ce moment-là, on était en Normandie. J'étais en Normandie déjà. Mais ma mère avait eu un prix de piano. Et donc, elle a déclaré, mais on n'avait pas de piano à l'époque, et elle a déclaré, tu iras au conservatoire.
Oui.
Donc, j'ai fait ils ont fait comme tous les parents qui veulent inscrire leur enfant au conservatoire, ils m'ont mis sur une liste, et puis un jour, on nous a appelé pour dire, vous pouvez aller pour faire un test.
Oui.
Et voilà, donc j'ai commencé avec mon professeur.
Et c'était dans quel conservatoire ?
C'était à Caen.
À Caen,
j'ai eu la chance d'avoir un élève de Marcel Moïse comme professeur,
ah oui, d'accord,
qui était vraiment en fin de carrière, mais qui était extraordinaire.
Une grande tradition de la flûte française.
Exactement, exactement. Donc vraiment l'école, une école très stricte, etc. Un professeur qui m'a donné de très bonnes bases. Oui. Et puis et voilà, et j'ai fait mon parcours au conservatoire. En quelques années, j'avais mon prix.
Oui.
On m'a parlé du Conservatoire National Supérieur, qui était mythique,
oui, bien
où
sûr.
Personne ne rentrait jamais.
Oui.
Et là,
oui.
Je me suis dit, ça doit être extraordinaire.
Oui.
Et puis, une fois réussi le concours, je me souviens, c'était encore rue de Madrid.
Bien sûr, oui.
C'était la dernière année.
Que j'ai connue, oui, absolument. Mais avant vous.
Et je me souviens d'avoir imaginé Debussy, Ravel, Fauré, etc. là-dedans.
Oui, bien sûr.
D'être vraiment impressionné. Et voilà, un parcours vraiment linéaire.
Et vous aviez quel professeur de flûte à Paris ?
Alain Marion.
Alain Marion.
Alain Marion.
Ah oui, oui, qui hélas nous a quittés tragiquement.
C'est ça. C'est
ça. On a bien connu ici à Nice en tant que directeur de l'Académie de Nice.
Exactement.
Vous êtes venu peut-être.
Oui, ouais, je suis venu. Oui. Oui, j'ai connu l'Académie de Nice et tout. Un parcours vraiment linéaire d'un jeune qui est fasciné par la musique et qui. Voilà. Alors pourquoi l'orchestre ? Parce que pour être franche. Le répertoire de la flûte est immense.
Oui.
Beaucoup de musique de chambre, beaucoup de musique baroque, etc. Déjà, à l'époque romantique, il y a déjà moins de répertoire. Et puis, on se rend vite compte que c'est quand même dans le répertoire orchestral que la flûte est la plus intéressante.
Bien sûr.
Ce dialogue avec tous les autres instruments, le répertoire de l'orchestre philharmonique, enfin de l'orchestre symphonique, il est immense.
Oui.
Il n'y a pas de limite. Ensuite,
mais c'est vrai qu'à l'époque romantique, il n'y a pas de concerto pour flûte
c'est
célèbre.
Ça.
Par contre, il y a des solos dans
exactement.
Toutes les symphonies, les poèmes symphoniques, etc.
Exactement. Et puis l'orchestre, c'est un dialogue permanent entre tous les instruments.
Oui.
Alors, je pourrais vous parler aussi. Donc, moi, je suis d'abord rentrée à Nice, à l'orchestre de Nice.
Voilà.
Parce que c'est là qu'il y a eu un concours.
Ça a été votre premier orchestre,
c'est
l'orchestre
ça.
De Nice. Oui.
Donc, à peine passé le prix. Oui, c'est ça. J'avais terminé au conservatoire. Quelques concours internationaux. Alors moi, je pourrais pas dire que ça s'est mal passé en concours internationaux. Ça s'est très très bien passé, mais rapidement aussi, je me suis dit que quand même, c'était pas très intéressant. On passait un an à préparer je ne sais combien de pièces, dont certaines vous collez à la peau, d'autres ne vous allez pas du tout. Et si vous aviez de la chance, eh bien, vous gagnez le concours. Donc j'ai fait quelques finales, eu quelques prix. Et puis rapidement, vraiment, je me suis orientée vers l'orchestre parce que c'est ce qui m'intéressait le plus.
Donc l'orchestre de Nice, et puis un jour...
Donc l'orchestre de Nice, et puis là, il y a un avis de concours pour Monaco. Oui. Et là, je suis venue écouter plusieurs fois l'orchestre, que j'ai beaucoup apprécié. Je connais un peu la discographie de l'orchestre aussi.
Oui.
Et puis ce qui était fascinant dans cet orchestre, c'était la succession des chefs d'orchestre, la succession des solistes qui passaient ici. Et une chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur, c'est que pour le musicien qui est au sein de l'orchestre, découvrir un nouveau chef, découvrir un répertoire, découvrir son répertoire, parce que le chef vient diriger une pièce en particulier qui a été choisie, ou quelques pièces, c'est comme un voyage en fait, c'est une découverte culturelle à chaque fois. Et ça, c'est assez extraordinaire. Dès la première répétition, dès la prise en main de l'orchestre, pour nous qui sommes en face, on découvre une personnalité, on découvre... alors, pas forcément le répertoire, parce qu'il y a des choses qu'on joue plusieurs fois par an, mais à chaque fois, c'est une découverte.
Mais c'est très beau ce que vous dites, là. Simplement, alors, je reviens à la question. Donc, vous avez postulé pour l'orchestre. Il y a eu un concours, j'imagine.
Alors, moi, j'ai répondu à un avis de concours.
Oui.
Je vais oser le raconter aujourd'hui, parce que c'est tellement extraordinaire.
En fait, je prends mon téléphone.
Oui, ouais, c'est ça. Je prends mon téléphone, et à l'époque, c'était sur papier. Donc, vous demandiez un dossier d'inscription et vous le renvoyez. Et là, la secrétaire me répond que je ne correspond pas au profil du poste.
Ah, c'est bravo, c'est intéressant.
Là, immédiatement. Bon, là, il n'y avait pas 36 solutions. Ça s'est passé comme je vous le dis.
Oui.
Donc, elle n'avait entendu que ma voix. Elle ne savait rien de mon parcours. Et comme je vous l'ai dit, moi, je devais avoir 22 ans à l'époque. Quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment très jeune et j'avais déjà des prix internationaux.
Oui.
Donc, comment ça, je ne correspond pas au profil il y a un problème.
Oui, en effet.
Alors,
oui.
Mon ex-mari était à côté, et on n'était pas encore mariés d'ailleurs à l'époque. Oui. Et je lui demande de téléphoner. Il oui. téléphone, on prend son nom, oui. et là, je vais donner mon deuxième prénom. Oui. Donc, je suis rentrée sous le nom de Dominique Moog. D'accord. Parce que Dominique, c'est pas genré. C'est une sacrée histoire quand même.
Ah oui, et ouais. à cette époque-là
ouais.
encore.
Ouais. Et il y avait
ça,
un paravent.
C'est incroyable, hein, ouais. on en a parlé dans l'histoire. Mais que ça soit dans l'histoire contemporaine,
c'est ça.
C'est incroyable.
Ouais. Ce qui est fou pour moi, c'est l'évolution.
Ouais.
C'est l'évolution, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est vraiment inimaginable. Bon, à l'époque déjà, les musiciens se sont émus de connaître l'histoire, parce que comme j'étais à l'Orchestre de Nice, ça s'est vite su que... Il n'était pas possible de s'inscrire pour les femmes, etc. Donc, le concours a été ouvert aux femmes, évidemment, heureusement.
Oui.
Mais il y avait quand même un paravent
oui.
qui m'a permis d'arriver en basket pour les premiers tours
oui.
et de jouer. Et au moment de la finale, donc, un concours, ça se passe comme ça. Vous arrivez le matin, il y a une liste de pièces. Et à chaque tour, le jury vous dit, ben, on aimerait entendre ça et ça et ça. Ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 10 minutes, le premier tour. Tout dépend du choix du jury. À l'époque, ils avaient encore une clochette. Mmh. Et donc, quand ils en ont assez entendu, ils agitaient la clochette.
Ah, je me souviens, une clochette qu'on agitait, oui.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est vraiment un paravent qui ne permet pas du tout de connaître l'identité de la personne qui est derrière. Voilà. Et on franchit les étapes. À chaque tour, il y a tout un tas de gens qui sont éliminés. Et vous arrivez en finale. Et là, la plupart du temps, on enlève le paravent.
Bien sûr.
Et là, je suis en finale avec un homme. Et là, je me dis, c'est fini pour moi.
Et à l'origine, vous étiez combien de candidats, vous savez,
Je ne sais pas, mais effectivement, on était probablement une centaine, enfin au moins 80, parce qu'il y avait tellement de flûtistes. Je me souviens qu'à l'entrée à Paris, on était plus de 400.
Oui, je me souviens très bien.
Il n'y avait pas de limite de nombre d'années, donc certains le présentaient pour la
septième fois. Donc vous vous trouvez en finale avec un homme.
C'est ça. Et là, c'est Gianmetti. Gianluigi Gianmetti qui est en poste comme chef d'orchestre.
Oui.
Et il était vraiment fantasque. Et je me souviens qu'il prend sa baguette et il décide de diriger les oui. solos. Et là, vraiment, c'était quelque chose. Et je me souviens, par exemple, de Daphnis et Chloé,
oui.
du solo, où tout d'un coup, je vois une baguette qui s'agite.
Ah
oui, non, c'est pas du tout comme ça. Et comme je vous le mime, quoi. Et alors, vraiment surprise, je me fais avoir un petit peu. Et puis là, il dit, bon, non, reprenons. Et là, j'ai joué le jeu.
Oui.
J'ai aimé ce personnage fantasque.
Oui.
Et j'ai aimé complètement déconstruire ce que j'avais préparé. Hein, parce qu'on arrive, on est super préparé. Hein.
Bien sûr. Oui,
on s'est entraîné devant tout un tas de professeurs. Et vraiment, ça a été, ça a été une rencontre, je pense. Oui.
Et donc, l'homme
et
n'a pas été pris. Et c'est vous
non.
qui avez.
Et
on le connaît, cet homme. Non, on garde secret.
Oh oui, il était déjà soliste d'un autre orchestre.
D'accord. Voilà. Ouais. C'était d'autant plus prestigieux pour vous de remporter devant lui. Alors, là encore, le temps passe. Et j'aimerais évoquer un autre aspect de votre personnalité que les gens ne connaissent pas et ne soupçonnent peut-être pas. C'est que depuis quelques semaines. Vous êtes docteur de l'université de Nice, parce qu'en plus d'être la musicienne extraordinaire que vous êtes, vraiment, et tout le monde vous apprécie, d'ailleurs tout le monde apprécie tous les gens qui sont ici sur cette scène, bien entendu, eh bien, vous êtes une universitaire et vous avez passé une thèse, vous allez nous dire laquelle, et je pense que le sujet de votre thèse mériterait vraiment une séance complète, et là on va en parler uniquement en 2-3 minutes, mais je pense que si la présidente, qui est là-bas, l'accepte, je pense qu'on vous réinvitera à nouveau pour nous parler de ce sujet. Alors de quoi s'agit-il ?
Je vous remercie d'évoquer cette question. Il y a une chose qui est assez peu connue, dont on parle peu, c'est de la santé des musiciens. Vers les années 2000, il s'est avéré que, 2000-2010, il y avait beaucoup de blessés à l'orchestre. Des troubles musculo-squelettiques qui étaient visibles, en fait. Les gens qui se tenaient le coude, l'épaule, etc. Et la question entre musiciens s'est posée de savoir comment gérer cette question. Parce qu'une carrière de musicien, c'est très long. Et comme je viens de vous le raconter, c'est une passion. Donc en fait, pour un musicien, l'idée même qu'il pourrait ne plus pouvoir jouer de son instrument le dévaste. Donc cette question était vraiment taboue. On a essayé de résoudre, de rencontrer tout un tas de spécialistes, etc. Et à l'évidence, ce n'était pas un sujet majeur. À l'inverse, on a entre nous tout de suite pensé aux sportifs qui ont des carrières qui sont très liées à leur état de santé. Oui. La performance est liée à la santé.
Au fond, c'est semblable. C'est assez semblable.
Exactement. Mais... Donc l'idée a été d'aller voir comment on irait consulter un médecin ou n'importe quoi d'autre, un notaire ou je ne sais, un chercheur, pour lui demander, on a un souci, on est musicien et on voudrait savoir comment gérer notre santé pour pouvoir avoir une carrière longue et être toujours au mieux de notre forme. Et puis là, le chercheur en question me dit, votre question est passionnante et vous semblez quand même avoir beaucoup d'éléments, mais on pourrait demander à un étudiant à la rentrée prochaine de s'emparer de cette question. Puis là, je me dis, mais c'est pas gagné. Il y a déjà des musiciens, d'ailleurs, qui ont quitté l'orchestre pour des raisons de santé, qui étaient en difficulté. Il me regarde, il me dit, j'ai vu votre CV. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais mes parents ne croyaient pas trop dans une carrière de musicien. Donc j'avais été à l'université déjà. J'avais un peu d'antériorité. Il me dit, écoutez, moi, je suis favorable à ce que vous vous inscriviez à la rentrée prochaine. Et puis voilà, je vais aller très vite. Donc un master en sciences du sport. Et puis après, un master en psychologie sociale, parce que comme je l'ai dit, c'est un tabou, la santé. La performance, on ne s'en rend pas compte. En tant que musicien, nous, on baigne dedans. Donc si vous parlez de performance aux musiciens, ils vont vous dire « Oh, la performance, non, en orchestre, c'est pas tellement une performance. » Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'un instrumentiste prend son instrument, il essaie de donner le meilleur de lui-même.
Oui. Et c'est une performance.
Exactement. Oui. Et là, vraiment, j'en ai pris conscience. Donc la question était, comment est-ce qu'on arrive à relier tout ça? Et voilà, donc un doctorat en psychologie sociale qui s'intéresse à la façon dont l'individu vit au sein des groupes sociaux qui l'entourent. Et donc la question fondamentale dans cette thèse, c'est le métier de musicien, c'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose qui porte tout le monde. J'ai pas, au cours de toutes mes discussions, rencontré un musicien qui n'était plus passionné. Tous les musiciens de l'orchestre sont passionnés. Certains sont désabusés parfois, fatigués. Mais ils sont tous passionnés.
Oui, bien sûr.
Et c'est un métier extraordinaire, puisqu'on a fait de rencontres avec des répertoires, avec des gens. Mais voilà, les conditions de travail sont quand même difficiles, avec des horaires souvent irréguliers, des difficultés à trouver le sommeil quand vous rentrez tard le soir après un spectacle palpitant, etc. Tout un tas de choses comme ça. Alors comment est-ce que tout ça s'articule pour faire en sorte... que le musicien trouve toujours à s'identifier au groupe dans lequel il est. C'est-à-dire, il y a souvent des questionnements qui peuvent venir. Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Les rapports entre les musiciens fluctuent. On fait de nombreuses tournées, par exemple. On n'imagine pas le degré de proximité qu'il peut y avoir entre nous. On se connaît finalement très, très bien les uns les autres.
Et pour vous particulièrement, qui avait trouvé à côté de votre pupitre votre mari qui se trouve dans la salle et qui a parlé de cette situation la fois dernière où il a été le très brillant invité de notre séance. Écoutez Anne, je vais vous couper la parole également, mais on vous écouterait vous aussi pendant une heure et donc vous avez obtenu ce doctorat il y a quelques semaines.
Oui, c'était le 8 décembre.
Voilà.
Alors je répondrai bien
c'est
volontiers.
C'est récent et on vous applaudit.
Voilà.
Je pense que vous reviendrez encore parce qu'on a envie vraiment de vous réentendre vous aussi. Et on va passer la parole à Thierry Amadi. Alors Thierry Amadi est lui aussi le merveilleux violoncelliste soliste qu'on entend dans les concerts de musique de chambre et dans les concerts symphoniques. Mais il a pour nous sur la Côte d'Azur évidemment une qualité supplémentaire, c'est qu'il est niçois. Il est de notre Côte d'Azur. Et en fait, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a dans l'orchestre d'autres musiciens, à l'heure actuelle, d'autres musiciens de la Côte d'Azur ? C'est pas...
Certainement.
Alors, Thierry, la même chose. Comment êtes-vous venu à l'orchestre ?
Je vais essayer de faire aussi court que David. Alors, je suis donc niçois, comme André vient de le dire. J'ai fait mes études au Conservatoire de Nice, au début. Je suis issu d'une famille, mon père était violoniste, ma mère violoniste, un demi-frère violoniste, donc tout le monde baignait dans le violon. Donc ils ont dit, bon, lui, il va faire autre chose. Donc j'ai commencé à faire du violoncelle comme ça, sans grand intérêt au départ, pas plus que d'aller faire du foot ou autre chose. Jusqu'à l'âge de 10 ans, 10-11 ans à peu près, où, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfance assez chaotique, pas de mon fait, mais voilà, la vie a été ainsi faite. André connaît
oui,
tout ça.
Oui, je connais, bien sûr.
Et parce qu'André était directeur du conservatoire de Nice, comme vous le savez tous. Donc j'ai fait ma scolarité à Nice sous sa direction. Et mon père a décidé, en parallèle du conservatoire de Nice, de m'inscrire à Monaco, à l'Académie de Monaco, pour que je puisse travailler avec Jacques Delguet. Jacques Delguet était un violoncelliste, qui était à l'orchestre, ici, à Monaco, et qui m'a fait un bien fou, qui m'a fait faire un travail fantastique, techniquement parlant. C'était carré, les gammes, ben, ça se travaille, un archer, ça se tire droit, la justesse, ben, c'est juste. Ou c'est pas juste, mais il faut que ce soit juste. Donc voilà, il m'a beaucoup aidé. Et voilà, jusqu'à donc l'âge de 17 ans, l'âge auquel je suis rentré au conservatoire à Paris, j'ai navigué à la fois à Nice et à Monaco. Donc j'ai connu beaucoup de gens de Monaco. Lane, ici présent, que je remercie pour avoir été déjà un collègue formidable. Pas très longtemps, trop peu de temps à mon goût, mais bon, je connaissais Lane qui m'a fait travailler chez Lomo, par exemple, de Bloch. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'avais eu la surprise à l'Académie à Monaco. Je travaillais chez Lomo, que je jouais dans le cadre de Symphonio.
Ah oui, Symphonio aussi. Voilà. Ben, les bons souvenirs. Oui.
Et donc, je jouais, c'était mon premier réel concert soliste. J'étais gamin. Et Lane était apparu dans la salle de cours de Jacques Delguet. J'étais hyper surpris, hyper impressionné. Et il m'avait fait travailler donc ce chez Lomo. Ça a été, je pense, notre premier vrai contact. Là, en tout cas, l'instrument à la main. Et j'en garde quelque chose de très fort. Et donc voilà, j'ai passé ensuite, je vais essayer de faire court, mais ensuite je suis rentré au conservatoire de Paris dans la classe de Jean-Marie Gamard, dont je suis devenu l'assistant ensuite. Donc j'ai fait à Paris 5 années, 3 années pour avoir le prix, 2 ans de perfectionnement. Pendant le perfectionnement, d'ailleurs, j'ai rencontré, il est où ? Monsieur Krivine, là, qui est là-bas en photo.
Ouais.
Parce que, bah, tu vois, David, à chacun son frère Capuçon. Donc toi, t'as Renaud, et moi, c'était Gauthier à l'époque, qui était en même temps au conservatoire. Et j'avais gagné, dans le cadre du perfectionnement à Paris, un concours avec les élèves de perf qui m'a permis de jouer au théâtre du Châtelet, Don Quichotte, sous la direction de Krivine. Et dans l'orchestre, il y avait Gauthier. C'est pour ça que ça me rappelle. Et suite à ça, Krivine m'avait invité à jouer en soliste avec son orchestre à Lyon pour faire Haydn en Ré. Et voilà. Et donc, je passe mon cursus parisien, je fais toutes mes études, et j'étais pas du tout dans l'optique de faire de l'orchestre. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que faire de l'orchestre, il y a 30 ou 40 ans en arrière, pour un prof, c'était presque considéré comme un échec. À Paris, je parle bien de Paris, hein. C'était une mentalité française.
C'est une mentalité française, de toute façon, absolument. Et...
Julien a raison, particulièrement parisien.
Et particulièrement parisien. Mais oui. Enfin, les professeurs forment des solistes.
Et donc Gamard m'avait formé vraiment à être soliste. J'avais à peu près tous les concertos, toutes les sonates, enfin tout dans les pattes, jouable. Et j'avais commencé, après mes études, une petite carrière. J'avais un agent, je faisais des concerts à droite, à gauche, en soliste, en sonate. Voilà, je faisais tout ça. Et je me suis vite rendu compte que cette vie-là ne me plaisait pas. Parce que faire un concert en soliste, c'est fantastique. On est la star, on est sur scène, c'est beau, c'est génial. Et puis derrière, on est tout seul dans une chambre d'hôtel. Et c'est une vie comme ça qui est... Voilà, c'est pas du tout un jugement pour ceux qui le font, parce que c'est admirable et bravo. Mais jouer toute sa vie le même concerto, même si en espace avec d'autres choses... Voilà, je me sentais pas de faire ça. J'avais pas envie. J'avais pas du tout envie. Et c'est présenté le poste à Monaco. Un premier poste d'ailleurs, pas le poste de violoncelle solo. Il y avait d'abord eu un poste de toutiste. Et j'avais dit à Gamard, mon prof, bon, bah, je vais passer le concours. C'est ma région. J'aime cet orchestre, c'est un orchestre fantastique. Et puis.
Et c'était le premier concours d'orchestre
que je n'ai pas fait au final.
D'accord.
Ce concours de toutiste, je ne l'ai pas fait.
D'accord.
Parce que Gamard, tout de suite, m'a dit non, Thierry, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas, tu ne vas pas être toutiste d'un orchestre. c'est pour vous dire
la mentalité soliste. Oui. Bah, tu seras soliste, oui. Ou tu seras rien.
Mais même pas soliste d'orchestre, il voulait pas de ça.
Oui, oui.
Et là, il a appelé Martine Bailly, qui était violoncelle solo à l'Orchestre de Paris, à l'Opéra, qui me connaissait parce qu'elle avait écouté le prix que j'avais passé au conservatoire et qui voulait me faire cachetonner, comme on dit dans le milieu, me faire remplacer à l'Orchestre de l'Opéra. Gamard s'était bien gardé de me le dire. Donc là, il a rappelé Martine Bailly. Martine, vite, fais le... Parce que moi, je voulais aussi être indépendant financièrement, parce que je dépendais de mon père. Et je voulais être indépendant. Donc, je me suis retrouvé à faire des remplacements à l'Opéra à Paris. Et ensuite, s'est présenté le poste de violoncelle solo ici. Et là, je me suis dit, ça, c'est... S'il y a un poste que je veux, c'est celui-ci. Ce n'était pas que je voulais rentrer dans un orchestre, je voulais rentrer dans cet orchestre.
Et c'était à la suite de qui? Alors,
c'était à la suite, alors pendant...
Qui avait été violoncelle solo?
Pendant un an, il y a eu Antoine Lederlin. Oui. Qui est ensuite parti à Bâle et qui maintenant fait partie du génialissime Quatuor Belchea. Oui. Ah oui, est-ce que j'oublie de vous dire tout de même, quand même, parce que
Allons-y.
on est, David et moi, assez connectés, volontairement ou pas. Mais à l'époque, j'avais participé aux rencontres de Belaï. C'est des rencontres de violoncelle qui étaient organisées par Roland Pidou, que j'embrasse là où il est aujourd'hui. Et j'avais rencontré David... parce qu'il avait un ensemble de musique de chambre. Il était venu jouer justement avec Antoine Lederlin. Et moi, je jouais, je faisais des concerts comme ça. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré David. On se perd de vue. Et David me recontacte parce qu'Antoine était parti à Bâle. Bon, et pour les raisons qui le concernaient, ne faisait plus partie de l'ensemble. Donc, il cherchait un violoncelliste pour intégrer cet ensemble de musique de chambre. Donc là, j'ai commencé à faire un petit peu de musique de chambre avec David. Ça a été les premiers contacts. Et puis, il y a eu ce concours que je voulais absolument faire. Et ce n'est même pas que je voulais le faire, je voulais le gagner. J'avais, à part l'Opéra de Paris, zéro expérience d'orchestre.
Ouais, c'est extraordinaire.
J'ai travaillé... De toute façon, bon, je travaille tout le temps, mais là, j'ai travaillé particulièrement. j'ai bossé comme un fou furieux et je me suis présenté à ce concours en sachant... quand je vous dis par cœur, c'est par cœur. C'est-à-dire qu'il y a même les petits traits d'orchestre, les petits machins qu'on joue normalement avec partition, je jouais tout par cœur parce que j'avais tellement travaillé et ça m'a sauvé la mise. Parce qu'en finale de ce concours, je me rappelle très bien, parmi les pièces à jouer, il y avait La fiancée vendue de Smetana, qui est un trait très connu pour les cordes principalement. C'est une sorte de, on va dire, de mouvement perpétuel. Qui va assez vite. Il y a des notes, il y a plein de notes. Donc, je joue ça une première fois pendant la finale. Et puis, Janowski, qui m'impressionnait beaucoup, était assis à la table. Il dit, bon, monsieur, maintenant, il prend un crayon et vous allez me suivre. Donc, il commence à me diriger La fiancée vendue, un peu plus lent. Je le suis, je le bouffe des yeux. Je dis, bon, dans la tête, je me dis, ça va, s'il le prend plus lent, je peux le faire, il n'y a pas de souci, ok. Et puis, ok, on recommence maintenant, vous me suivez. Et là, il s'est mis à diriger à nouveau La fiancée vendue, plus vite, mais alors surtout très instable, ce qui n'est pas normalement comme ça que ça se joue. Mais donc, il s'est mis à accélérer, à ralentir et à voir, et pour voir si je suivais ou pas. Et heureusement, je connaissais le carton, comme on dit, par cœur, parce que ça m'a permis d'être comme ça sur lui et de jouer comme une mobilette qui avait dératé. Voilà, ça donnait à peu près ça. Mais il voulait voir.
Extraordinaire témoignage, magnifique. Oui. Et vous étiez combien alors pour postuler à ce poste? Poste de violoncelle solo l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo.
Il faut pas croire, les postes de soliste, ça n'attire pas tant de monde que ça. C'est pas des concours.
Oui, mais ça attire l'élite.
Ça va attirer voilà, des gens qui visent ces postes-là,
qui ont 20 ans de carrière. Et
la chance que j'ai eue, c'est que Janowski faisait confiance aux jeunes. Ouais. Et il voulait justement avoir une patte malléable et formée. Et d'ailleurs, je l'en sais gré éternellement. Ouais. Ça a été un formateur fantastique. Ouais. Fantastique.
Eh ben, c'est magnifique, encore ça. Bravo, bravo Thierry. Ouais. Je vois que le temps passe, je reviendrai vers vous tous et puis j'aimerais qu'on commente peut-être les photos qui sont là, sur lesquelles vous êtes, qui correspondent à des grands souvenirs que vous avez certainement partagés. Julien Bourgeois est le musicien que l'on voit au haut de l'orchestre. Voilà, c'est le roi de l'orchestre, d'une certaine façon. Et c'est évidemment spectaculaire hein, d'être timbalier solo. Et puis, ma foi, ben, c'est lui qui marque le rythme aussi. Hein, ça, c'est très important dans l'orchestre. Alors, Julien, comment vous êtes venu à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Je suis rentré sur concours en 1997 à l'orchestre.
Et vous veniez d'où alors?
Mon parcours, j'ai grandi dans une famille paysanne et ouvrière. Donc mon père était viticulteur dans le Beaujolais.
Oui.
Et ma mère.
Ah, on en a besoin des viticulteurs dans le Beaujolais. Hein.
Et pas seulement dans le Beaujolais. Et mon père jouait du tambour dans une fanfare.
Oui.
Et c'est lui qui formait les jeunes pour.
Ah, d'accord.
Voilà, c'était complètement associatif. Oui. Et c'est lui qui m'a enseigné en fait mes premiers coups de baguette sur un tambour. J'ai commencé à 5 ans avec lui. Et de fil en aiguille, des gens autour qui venaient de milieux plus classiques ont dit que ça fonctionnait plutôt bien, que ça valait peut-être la peine de m'emmener à l'école de musique de la ville d'à côté, en l'occurrence Villefranche-sur-Saône. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la musique classique, dans la percussion classique. Mmh. Et ça m'a conduit ensuite jusqu'au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Et c'est là où je voulais te dire que c'est pas forcément français, mais l'esprit, mais plutôt parisien, parce que j'ai vécu d'autres choses au Conservatoire de Lyon.
Et c'était avec quel professeur à Lyon ?
François Dupin, le regretté François Dupin, qui était timbalier percussionniste à l'Orchestre de Paris.
Oui. Et qui a écrit un livre remarquable sur l'orchestre.
Est-ce que tu sais sur la vie de l'orchestre nu.
L'orchestre nu,
absolument. Tu sais que le bouquin a été pilonné, figure-toi. Donc pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un exemplaire
de
l'orchestre
nu,
alors tu le gardes, mais précieusement parce que il a été détruit.
Oui, parce que c'est un très beau témoignage de l'orchestre. Dans le style de ce que vous apportez aujourd'hui, comme ça, l'orchestre vu de l'intérieur.
Des anecdotes que vous connaissez peut-être, que François a écrit dans son bouquin avec des belles photos, des témoignages. Enfin, c'était une personne assez, assez formidable. Et en tant que formateur, son job à lui, au-delà de nous enseigner à être les meilleurs possibles, était de faire en sorte qu'on trouve un poste.
Oui.
Voilà, il était très pragmatique, c'était très concret. Donc chez les percussionnistes, pas de soliste, pas de concertiste. Alors il y avait les percussions de Strasbourg.
Justement, on va évoquer ça justement, ce répertoire si particulier des percussionnistes. Donc alors.
Et donc son mantra, c'était d'abord vous allez passer tous les concours qui se présentent, quels qu'ils soient.
Oui.
Vous gagnez un poste. Et ensuite, vous faites les difficiles et éventuellement, vous choisissez d'autres postes.
D'accord.
Mais d'abord, on était quasiment obligés d'aller présenter des concours. Et ce qui fait que beaucoup de ces étudiants, à cette époque-là, ont gagné des postes dans les orchestres. Ce qui n'était pas le cas à Paris, par exemple. Mmh. Ou de Lécluse, à cette époque-là, le professeur de Lécluse, qui était, je crois, le frère du prof de saxophone, c'est ça ? Clarinette.
Voilà.
Et qui était aussi un très grand musicien.
Oui, bien sûr, absolument.
Mais il y avait cette vision de l'orchestre, enfin ces gens-là qui étaient tous dans des orchestres.
Oui. Ce qui était bizarre pour un percussionniste.
Oui, complètement. Oui. Donc voilà, parenthèse refermée. Et en 1992, j'ai gagné mon premier poste de percussionniste, percussion solo et assistant timbal à San Sebastián, l'orchestre du Pays Basque, Orquesta de Euskadi.
Parce que là, il y a plusieurs types de concours pour les percussionnistes. Il y a le timbalier, les accessoires, le xylophone.
Absolument.
Voilà.
Le poste de timbalier est un poste particulier au sens où le timbalier de l'orchestre ne joue que les timbales. Pourquoi ? Pour une raison bien précise, c'est que les compositeurs, depuis l'époque baroque et surtout classique, ont intégré la timbale dans absolument tout leur répertoire. Mmh. Ce qui n'est pas le cas des instruments que vous voyez à côté des timbales qui sont les tambours, les grosses caisses, les claviers, donc le xylophone, le glockenspiel, les cloches, et puis tous les petits accessoires, donc les cymbales, les triangles, tous ces instruments qui sont pas si faciles que ça à jouer. Et donc ces instruments viennent bien plus tard, donc, et de manière récurrente, à partir de la fin du 19e siècle et a fortiori au 20e siècle.
Oui.
Mais le timbalier d'orchestre joue le répertoire depuis 1750, depuis 1780.
Absolument, oui. Voilà. Donc, alors, ensuite, en ton parcours, là.
Alors, le parcours, donc, ce sont 5 années à l'orchestre de Saint-Sébastien, 5 années tout à fait formatrices, forcément, c'était mon premier poste. Et François Dupin m'avait dit, à la fin de mes études, il m'avait dit que lui me voyait bien à terme timbalier d'orchestre. Il trouvait que...
Plutôt les timbales que les accessoires ou les claviers.
Pour cet instrument. Et c'est vrai que c'est... on travaillait le répertoire d'orchestre avec des... Il mettait des CD, on lisait les partitions, il nous racontait ses expériences de d'orchestre, de timbalier, de telle ou telle œuvre qu'on était en train de travailler avec tel grand chef, Scholti ou autre, à l'Orchestre de Paris. Donc c'était fascinant.
Bien sûr.
Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire aussi, les moments où il s'était fait avoir. Enfin voilà, il n'hésitait pas à nous dire...
Et pourquoi il voyait plutôt timbalier que le reste Est-ce que ça s'explique, ça?
Tu poses la question, tu sais bien que la question que tu poses, André, c'est que c'est une question à laquelle on répond pas. C'est être timbalier dans le métier depuis longtemps. Les anciens, ils appelaient ça la chaise. C'est une histoire d'expérience, une histoire de sensation. Aujourd'hui, on dirait de feeling à l'instrument. Il y a une manière de... Il y a une manière, non, il n'y a pas une manière définitive. Mais les orchestres aiment se sentir... confortable avec leur timbalier.
Eh oui, et c'est ce qui est
le
cas ici.
Dans le geste, le geste physique, le geste, le rendu sonore,
bien sûr.
La sensation de sécurité qui met un petit peu tout le monde d'accord quand c'est nécessaire,
bien sûr,
sans avoir l'air de forcer non plus.
Et c'est pour ça que tu es tellement apprécié. Alors attends, on revient au concours, et puis après on va revenir à la pratique.
Et donc, j'avais envie de trouver un poste de timbalier à part entière. Et donc, ce sont des postes qui ne sont pas légion. Donc, quand le concours a été annoncé à Monaco, je l'ai préparé, tout simplement, comme pour tenter d'avoir un poste de timbalier. Aux grandes dames ce que tu avais dit, ce n'était pas pour intégrer l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, c'était d'abord pour
un poste,
acquérir un poste de timbalier. Grand bien m'en a pris, puisque ça fait 28 ans maintenant que je suis dans la place et je suis profondément heureux de mon orchestre et du métier que je fais. Mais voilà, c'était pour intégrer avoir un poste comme ça.
Alors, au concours, qu'est-ce qu'il y a quand il... Parce que pour les autres instruments, il y a des concertos, etc.
Au concours, timbalier. Il y a aussi, parce que quelques compositeurs ont écrit des concertos pour timbales. D'ailleurs, j'en ai joué.
On se souvient, absolument, oui.
Donc, Werner Terrichen, qui était un ancien timbalier des Berliner Philharmoniker, était compositeur, il avait écrit un concerto pour timbalier orchestre. Et donc, au premier tour du concours de recrutement, en 1996, il y avait deux mouvements, non pas joués avec orchestre, mais avec piano accompagnateur, et puis ce qu'on appelle des traits d'orchestre. Donc des traits d'orchestre, ce sont des fragments de passages célèbres et difficiles pour l'instrument dans l'orchestre. Voilà.
Et en particulier, alors, parmi les passages célèbres et difficiles, qu'est-ce qu'il y a ?
Les passages célèbres, il y a évidemment la 9e symphonie de Beethoven, la 5e, la symphonie fantastique, le début magistral de la 1ère symphonie de Brahms, danse sacrale du
Salut Sacre-Bâton,
etc., etc. Bref, toutes ces choses assez spectaculaires et difficiles.
Alors, il y a plusieurs sortes de timbaliers, mais il y a plusieurs sortes de timbales aussi. Et quand on te voit, alors il y a les timbales modernes à robinet, il y a les timbales à pédale, les timbales anciennes. Alors, qu'est-ce qui choisit la timbale sur laquelle tu vas jouer ? Est-ce que c'est le chef d'orchestre ? Est-ce que c'est toi ?
C'est moi qui choisis. Voilà. Je fais systématiquement des propositions artistiques au chef invité, au chef qui va diriger la production. Ça n'a jamais posé de problème. Les chefs ont toujours été convaincus par la proposition musicale.
Voilà.
Donc j'ai fait en sorte, dans l'orchestre, dès mon arrivée, d'avoir René Croisi doit se souvenir de ça, quand il était administrateur. Donc je suis arrivé à l'orchestre et les timbales étaient des timbales avec des pots plastiques, des pots en plastique, des pots... Des mécaniques d'instruments assez rudimentaires. Bref, ce que j'appelais des timbales de conservatoire.
Oui. Mais on a connu ça, absolument. Et on était heureux d'en avoir.
Complètement. C'est pas du tout pour dénigrer. C'était des timbales qui n'étaient pas forcément appropriées pour avoir un son formidable dans
l'orchestre symphonique. Oui.
Et je suis rapidement allé voir René Creusy dans son bureau pour lui demander si, à la place des timbales de conservatoire, on pourrait acquérir assez rapidement des timbales d'orchestre.
Et là, quand on achète 4.
Alors, on achète 4 ou 5 timbales. 4 ou 5 timbales. Dès la fin du 20e siècle.
Oui, parce qu'il faut savoir que chaque timbale a sa note.
Ses notes.
Les
timbales s'accordent.
Les timbales s'accordent, contrairement.
On joue des notes, absolument. Oui, donc, des notes. La plupart du temps, on joue. C'est une contrebasse simplifiée, la timbale dans l'orchestre. Oui. En termes de notes, on joue la note fondamentale, la dominante. Ça, c'est la base de l'écriture des timbales dans le répertoire classique. Beethoven a déjà commencé à déstructurer tout ça dans la 9e, dans la 8e. Enfin, voilà, il y a des...
Pom, pom, pom.
Exactement. L'octave de du scherzo de la 9e, par exemple.
Donc, vous avez acheté des timbales, et René Creusy a accepté d'acheter des timbales modernes.
Des timbales.
Ça coûte combien d'ailleurs une timbale aujourd'hui?
Un jeu de 5 timbales. On est entre 50 et 80 000 euros pour 5 timbales. Oui. Et les pots naturels sont sus, et il faut les changer régulièrement, donc entre une et deux fois par an.
Les pots naturels sont des pots d'animaux.
Absolument. Oui. Désolé pour nos amis véganes. Oui. Ce sont des pots de veau la plupart du temps, celles qui sont de couleur marron clair, si vous voyez un petit peu. Et parfois on joue aussi des pots de chèvre. Ça, c'est une spécificité plutôt viennoise.
Les pots de chèvre.
Absolument, mon cher monsieur.
Et vous, à Monaco, vous avez des pots de veau.
Des pots de veau sur les timbales classiques, celles que je joue habituellement. Et sur les petites timbales ou les timbales anciennes.
Alors voilà, il y a les timbales anciennes aussi. Voilà.
Des timbales anciennes ou des copies d'anciennes, puisqu'on ici, on n'a pas de véritables
timbales
du 18e siècle.
Bien sûr.
Mais la peau de chèvre donne une sonorité plus chaude et un impact plus vif que la peau de veau. Ouais. La peau de veau donne une sonorité plus ronde.
Oui, tout ce travail qui est fait par le musée, c'est extraordinaire.
Je vous parle vraiment de ma cuisine. Mais bien sûr, c'est l'arrière-boutique. Parce que ça, vous n'êtes pas supposé le savoir.
Mais alors là, aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a l'instrument, puis il y a les baguettes aussi. Voilà. Et on te voit arriver avec toute une panoplie de baguettes. Souvent, dans les orchestres, il y a le percussionniste qui arrive avec ses deux baguettes, là, qui est travaillé, puis c'est tout. Mais toi, tu as toute une panoplie de baguettes.
Comme tous les timbaliers. Ouais. La panoplie de baguettes sert à avoir une palette sonore.
J'imagine.
Il est possible. Donc, de la baguette à la tête en bois, qui donne une sonorité extrêmement dure, articulée, jusqu'à la baguette avec plusieurs boules de feutre, à la sonorité beaucoup plus chaude. Il y a différentes tailles de tête, différents matériaux. On a aussi des baguettes plutôt viennoises, ce sont des rondelles de flanelle qui sont superposées. Parfois on rajoute du cuir, toutes sortes de matériaux.
Et là encore, c'est toi qui choisis la baguette en fonction. Le chef d'orchestre n'intervient pas.
Rarement.
Le violon solo n'intervient pas.
Il n'a pas intérêt.
D'accord.
Non, par contre, c'est pas vrai, parce que parfois nos amis musiciens sur le devant de l'orchestre ont parfois besoin, et nous à l'arrière on ne s'en rend pas compte, d'une sonorité. Parfois vous nous demandez, est-ce que ça pourrait être plus précis pour qu'on puisse mieux te suivre ou qu'on puisse mieux jouer ensemble.
Bien sûr, mais c'est comme la musique de chambre en fait.
Tu peux couvrir, mettre un petit chiffon sur la peau pour qu'elle résonne moins et donc que vous puissiez entendre de manière plus précise. Et donc pour qu'on soit plus ensemble.
Mais moi j'imagine qu'il devait y avoir une espèce de jouissance comme extraordinaire, donner ces grands coups de timbales comme ça pour faire vibrer toute la salle. Et puis alors il y a un autre instrumentiste aussi qui est à côté de toi, c'est celui qui joue des cymbales. Celui qui fait claquer les cymbales. J'imagine qu'on a une émotion lorsque...
Comment parler de ces émotions? Oui, c'est physique, bien sûr. Physique.
On va arriver.
Mais ce ne sont pas des instruments qui requièrent de la force. C'est plutôt une canalisation d'énergie. Ça n'a rien à voir avec de la force. je peux en témoigner.
Ouais. Écoutez, mes amis, voilà, une heure vient de passer. On avait amené des disques, mais écoutez, qu'on écoutera une autre fois, je ne sais pas. Vous avez été passionnant. Vous avez été passionnant. J'ai posé le 10e des questions que je voulais poser. Donc, ça veut dire, ben, je ne sais pas, il faudra peut-être recommencer, que vous reveniez. C'était la première série. C'était la première séance de cette série. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Si vous avez peut-être vraiment deux questions à poser, mais on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti, d'autant que les musiciens ont une répétition maintenant. Donc, et avec Scheherazade, c'est toi qui seras le... Ah oui, c'est toi qui joueras Scheherazade dimanche samedi prochain. Il s'appelle Scheherazade. Alors une question, voilà, Françoise. Oui. Une question, ce sera la première et la dernière, puisque je m'étais engagé. Est-ce que
pour rester dans le domaine technique, justement, peut-être Monsieur Lefebvre, on vous a vu arriver il y a déjà un moment, au moment de concert. Avec une tablette.
Je voulais poser la question. Allez, monsieur à tablette.
Et je voulais demander, vous êtes avec une tablette, donc sur le pupitre, et j'ai observé autour de vous, il y avait assez peu de tablettes qui arrivaient. Alors je veux savoir de votre part, s'il vous plaît, ainsi que de vos collègues présents, ce qu'ils pensent de la tablette, ou bien s'ils préfèrent rester à l'époque Gutenberg.
Excellente question. Mais les autres, ils ne sont pas au courant, en fait. Il n'y avait que David qui savait qu'il y avait des tablettes. Thierry aussi, tu es un... Ah oui, Thierry aussi, d'accord, oui.
Madame, bonjour, rebonjour, merci pour la question. Tout à fait, c'est impossible à cacher. Alors vous devez savoir quand même qu'il y a d'autres musiciens, même de plus en plus, qui jouent sur tablette. Alors certains musiciens aussi, des vents et des cuivres, dont vous ne pouvez pas voir en fait, je parle bien de tablette et non pas de bande dessinée, hein, c'est parce qu'ils ont ou une partition, une tablette, mais aujourd'hui les solistes, les chanteurs emploient de plus en plus la tablette. Nous avons eu la chance, il y a environ 5-6 ans, d'avoir une présentation personnalisée d'un logiciel français pour lecture de partition. Cette rencontre avait été organisée par notre régisseur général. Nous avions ceux qui voulaient assister. Et si vous voulez, là encore, ça pourrait être une... Parce que c'est passionnant. Je vais faire en deux phrases, si c'est possible. J'ai tout de suite été conquis par le procédé de la tablette qui est... Ça fait 4-5 ans au moins que je l'utilise au sein de l'orchestre, qui permet une grande facilité de transfert des fichiers. Je vous ai expliqué tout à l'heure que je déterminais les coups d'archer, les fameux tirés, les fameux poussés que je dois fournir à la bibliothèque. Bien sûr, on peut s'organiser avec des partitions papier, mais le travail sur tablette facilite, en tous les cas, à mon sens, à moi... considérablement l'échange des partitions, un simple mail et la bibliothèque reçoit instantanément mes indications. Certaines personnes, et je veux le souligner, un jour, on fait une répétition d'opéra sur scène et c'était de l'époque de Jean-Louis Grinda et je sors de scène et il m'alpague, il dit « David, Jean-Louis, faut que je te parle ». Et là, dans ma tête, parce qu'il y avait eu malheureusement certaines personnes de l'orchestre qui n'aimaient pas la tablette pour aucune raison valable. Mais alors, je dis, Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, j'ai vu que tu jouais sur une tablette et je veux dire que je suis fier de toi parce que ça, c'est le futur et ça, c'est extraordinaire. Et alors là, je l'ai invité tout de suite dans ma loge pour boire un café. On a discuté et du reste, il a équipé avant son départ les chœurs, certains musiciens, les pianistes avec les tablettes. C'est vraiment le futur. Et je vais vous dire quelque chose, les symphonies de Beethoven sont éditées avec certaines tours de page qui sont, même quand on est deux, compliqué et qui crée un bruit, schlack, schlack. Et moi, je trouve que le schlack ne fait pas partie de la musique. Mais bon, écoutez, un jour peut-être, mais vous savez, il faut laisser les gens libres d'utiliser ou pas cet objet-là. Moi, je suis un fervent convaincu que c'est en tout cas quelque chose de vraiment... Et vous savez, on vieillit et avec la tablette, il y a des problèmes qui s'estompent parce que tout est très clair, tout est très défini, très lumineux. Et donc, au palais princier, jamais ma tablette va tomber par terre comme souvent une partition d'orchestre peut tomber.
Le témoignage de Thierry, alors, et puis on va terminer là-dessus.
Oui, nous avons essayé, nous voulons l'acheter pour l'orchestre, mais on nous a expliqué que si ça tombe, que s'ils n'ont pas chargé, que si la batterie, que si... Donc, on a abandonné le projet. Oui. Je crois que Sylvain, j'ai vu Sylvain, oui, on avait évoqué ça il y a quelques bonnes années déjà.
Mais juste pour rebondir sur ce que disait David, donc effectivement, la tablette, c'est un outil que quasiment tous les musiciens aujourd'hui utilisent, tous les ensembles de musique de chambre, les pianistes, ça a des avantages colossaux. C'est-à-dire que dans un iPad, finalement, on a toute sa bibliothèque, et Dieu sait qu'on en a des partitions, qui est là, qui est consultable. Et comme tu le disais, plus de problèmes de tourne, plus de problèmes d'éclairage, plus de problèmes de vent, plus de problèmes de quoi que ce soit. Et effectivement, encore une fois, c'est l'avenir. Parce que le travail, particulièrement pour les premiers solistes, c'est de se tourner vers les collègues pour dire musicalement certaines choses, plus fort, moins fort, voilà. Et puis les coups d'archet, les fameux coups d'archet qu'on peut modifier en cours de route pendant une répétition. Des tablettes, par exemple, connecter tout un pupitre de violoncelle ensemble, ça me permettrait de prendre le crayon, de mettre tirer à la place du poussé ici. Pas besoin de se retourner, pas besoin d'interrompre un peu la répétition, de déranger le chef. Donc il y a énormément d'avantages, mais comme tout, ça va prendre un petit peu de temps pour s'installer.
Merci de votre témoignage. En terminant, je vais remercier la présence de deux personnes sans qui l'orchestre ne fonctionnerait pas comme il fonctionne, Monsieur Charnet, Monsieur de Cotigny. Merci de ce que vous faites pour l'orchestre, merci de ce que vous apportez. On peut vous applaudir comme des artistes. Et puis dire encore toute notre gratitude aux quatre musiciens qui étaient là devant nous. Mes amis, on vous aime, on vous admire.